Seigneur, de nous éclairer par ton Esprit Saint et que cela transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans Galates au chapitre 6, 7 à 8. Galates 6, 7 à 8. Galates chapitre 6, 7 à 8. Il est écrit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand on dit celui qui sème pour l'esprit, c'est pour l'esprit de Dieu. Celui qui sème dans la logique divine, il va moissonner la vie éternelle, des choses durables, impérissables. Voilà ce que nous dit la parole. Nous sommes des humains. Et étant humains, nous avons pour habitude d'être impressionnés par ce qui est visible, par ce qui paraît puissant, par ce qui réussit aussi, entre guillemets, ce qui marche. Mais la Bible nous dit, peu importe les apparences, peu importe ce qui réussit, ce qui marche, la vraie chose qui aboutit, c'est celle qui est faite dans la logique de Dieu, en esprit. Les apparences peuvent nous tromper. La vérité qu'on doit chercher dans toutes choses, c'est quelles sont les bases de ma construction. Est-ce que ce sont des bases liées à l'esprit de Dieu, liées à la gloire de Dieu, ou c'est lié à la chair? Tout ce qu'on va faire qui a pour base la chair, nous venons de lire, ça produira la corruption. On peut connaître 30 ans de brillance, 30 ans d'éclat, mais ça finira par produire la corruption. Il y a des animaux majestueux, des grands éléphants, mais un jour ils finissent par mourir et produire les odeurs, les asticots, les insectes, les charognards viennent manger. Parce que ce qui est cher finit dans la corruption. Voilà le conseil du Seigneur. Le Seigneur veut que nous travaillions par l'Esprit de Dieu. Nous avons des exemples très simples. Il y a des gens qui peuvent penser qu'ils ont beaucoup d'argent et donc se permettre d'utiliser ça pour satisfaire leur penchant pervers. Tu dis, je suis riche, je peux m'acheter tous les cartons de cigarettes que je veux. Je suis riche, je peux m'acheter de la cocaïne. Mais nous voyons les conséquences. À la fin, c'est la personne qui est détruite par sa cigarette. À la fin, c'est la personne qui est détruite par la cocaïne. À la fin, c'est la même personne qui est détruite par la débauche. Mais au début, la personne semblait forte quand elle prenait la décision de prendre telle ou telle autre voie. Et on se dit, mais puisque ça marche, il y en a même qui disent, Dieu est avec moi puisque ça marche. Non, ce qu'on doit regarder, ce n'est pas est-ce que ça marche. On doit plutôt regarder pourquoi je le fais. Qu'est-ce qui me pousse à le faire, ce que je fais là? que ça marche ou pas, c'est quelle est la base, c'est quelle œuvre, c'est l'œuvre de la chair ou l'œuvre de l'esprit. C'est ça notre thème d'aujourd'hui, œuvre de la chair ou œuvre de l'esprit. Sachant que l'œuvre de la chair produira la mort, l'œuvre de l'esprit produira la vie éternelle. Dès ici-bas, produira la paix, la joie, la force, la sérénité, la tranquillité. Mais l'œuvre de la chair produira au début une certaine satisfaction personnelle, mais ça finira toujours mal parce que tu as construit sur des bases qui n'étaient pas pures, des bases qui n'étaient pas solides. La chair, c'est quoi? La chair, c'est ça qui fait l'homme. L'homme est esprit, âme et corps. Et l'âme et le corps forment ensemble la chair. Et cette chair a été corrompue par le péché, de sorte que maintenant cette chair-là a des habitudes qui ne sont pas de Dieu et qui poussent plus à la consommation, qui poussent plus à l'égoïsme, qui poussent au mal. Et les gens qui travaillent pour la chair, parce que dans les activités de la chair, il y a ce qui est évidemment mauvais, c'est évident pour tous, comme tuer, comme voler, comme taper. C'est des choses qui sont à l'évidence mauvaises, mais il y a des choses qui sont subtiles, comme l'orgueil, comme le fait de chercher la satisfaction, chercher à avoir raison à tout prix. Ce sont des choses subtiles, ce sont des choses liées à la chair. Comme le fait de vouloir satisfaire ses parents, satisfaire les humains, se faire applaudir. Ce sont des choses qui, en apparence, ne sont pas foncièrement comme ça à la vue. Ça ne paraît pas dangereux ni vraiment mauvais, mais ce sont des choses en réalité qui sont mauvaises parce qu'elles ont pour base la glorification de l'homme. La glorification d'une personne, la satisfaction égoïste d'une personne. Et il est écrit, ceux qui bâtissent dans cet esprit-là connaîtront la mort. Il y a Staline, peut-être les jeunes ne connaissent pas Staline, ça a été le président de l'URSS pendant un certain temps et il est mort en 1953. Staline fait partie des dictateurs les plus dangereux que le monde ait connu. À partir de Staline, il y a eu plus de 20 millions de Russes, de soviétiques de l'époque qui sont morts. Ça fait partie des hommes les plus méchants que le monde ait jamais connus. Et dans sa volonté, comme il était méchant, vous savez, les méchants ont toujours considéré que les autres aussi sont méchants et qu'ils leur veulent du mal. Et dans sa paranoïa, il a estimé que, puisqu'il y avait beaucoup de médecins juifs en Union soviétique, il a pensé que ces médecins juifs allaient être utilisés par l'ennemi pour tuer. Il a créé un faux complot en disant que les médecins juifs allaient être utilisés par les adversaires pour tuer les cadres soviétiques. En réalité, ils voulaient éliminer les médecins juifs et en même temps éliminer leurs amis qui étaient des grands politiciens. Donc c'était sa technique. Il monte des faux complots et il tue les gens. Mais comme il a bâti sur un mensonge, un faux complot, il a lui-même cru à son faux complot. Donc il évitait maintenant les médecins. Puisque le complot, c'était quoi? Les médecins vont nous empoisonner, nous, les chefs de l'Union soviétique. Et à cause de ça, il évitait réellement les médecins, alors que c'était un complot que lui-même il a imaginé. Et il est tombé malade. Et personne ne voulait le déranger en amenant un médecin. Parce qu'il pouvait te tuer comme ça. Il dit, tu le déranges, il te fait tuer. Donc on l'a laissé tranquille dans sa maladie. Parce que qui aurait osé dire, Monsieur le Président, voilà le médecin qu'on vous amène pour vous examiner. Puisque le monsieur a inventé un complot comme quoi les médecins lui veulent du mal. Donc personne n'osait lui amener non plus de médecin. C'est ainsi que le grand Staline, l'homme fort, parce que Staline, ça veut dire l'homme d'acier. Donc l'homme d'acier est mort bêtement par son propre faux complot. Donc ce qu'il a bâti l'a détruit lui-même. C'est ce que Dieu est en train de nous dire dans ce verset. Ce que tu construis par la chair, ça te détruira. Un jour ou l'autre, aujourd'hui tu ne le vois pas. La question que tu dois te poser, est-ce que ce que je fais, ça marche? Non, ce n'est pas cette question-là. C'est, est-ce que ce que je fais vient de l'Esprit de Dieu, vient de la volonté de Dieu? C'est la question que tu devrais te poser pour chacun de tes projets, chacune de tes activités. Est-ce que je le fais parce que Dieu le veut ou est-ce que je le fais pour satisfaire ma logique, mon intelligence, mon raisonnement? Vous savez, ça peut aller loin. Même il y a des choses qu'on peut faire soi-disant pour Dieu, mais Dieu n'est pas dedans parce que tu ne lui as pas demandé la permission. Donc ce n'est pas parce que tu fais quelque chose avec le titre Dieu que c'est forcément en esprit que tu le fais. Tu peux le faire aussi par la chair. Donc ce qui est de Dieu aura, comment dire, le sceau de l'Esprit de Dieu et le sceau de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donner quelques points qui peuvent nous aider à reconnaître ce qu'on fait. Est-ce que ça vient de Dieu? Ça vient de la chair? C'est pour la chair ou c'est basé sur l'esprit? Parce que ce qui est de l'esprit produit la vie éternelle, ce qui est de la chair produit la corruption. D'ailleurs, le Seigneur nous a donné une règle simple. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais les fruits pour venir, ça peut traîner aussi. Donc on peut se planter aujourd'hui et les fruits ne sortent qu'après 5 ans. Donc pendant les 5 ans, on peut croire qu'on a planté un pommier alors qu'on a planté un oranger. C'est possible. Donc on a 5 ans de règne où on va dire tout ce qu'on veut sur l'arbre. Mais après 5 ans, les fruits sortiront, ça fera la différence. Donc l'erreur, c'est de voir la grandeur de l'arbre et dire « Oh, quel bel arbre, quel beau pommier !» Alors que tu ne te souviens plus qu'est-ce que tu avais planté. Tu ne te souviens pas. Au lieu de commencer à faire des projets sur quelque chose dont tu ne connais pas l'origine, instruis-toi sur l'origine de la chose. Quelles sont les origines de tes actes? Quelles sont les origines de tes projets? Quelles sont les origines de ton comportement? On peut croire qu'on est dans le bon chemin parce qu'on voit le mal chez l'autre. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous dit que le fort supporte les faibles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'on doit pardonner à ceux qui nous font du mal. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons nous offrir en sacrifice pour les autres. Mais nous, on peut se dire, mais non, c'est lui qui a commencé, donc je suis dans mon droit d'être dans la colère et de le détester. Apparemment, tu as raison, mais ce n'est qu'une apparence. Parce que la colère que tu produis va engendrer la haine. Et cette haine va engendrer la destruction, parce que ça va t'amener à détruire l'autre d'une manière ou d'une autre. Et l'autre aussi, ta destruction en lui va engendrer la haine, la colère, et ainsi, on va aller de vengeance en vengeance. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a arrangé les choses? On n'a pas arrangé les choses. Jésus nous a donné la clé. Il faut pardonner. Quand on pardonne, on élimine le mal de nous-mêmes. On n'a pas forcément éliminé le mal chez l'autre, mais déjà chez nous, c'est fini. Il n'y a plus de mal. Mais quand on n'a pas pardonné, on va se venger. Donc on a toujours le mal en nous et on continue à le nourrir chez l'autre et vice-versa. Dans quoi tu sèmes? Ce que tu sèmes conditionnera ton avenir. Soit ça sera la mort, la destruction, soit ça sera la vie. Alors Dieu nous conseille de s'aimer en esprit. Ainsi nous récolterons la vie éternelle. Combien de femmes n'ont-elles pas fait tout ce qu'il fallait pour retenir un homme? Mais comme elles ont fait ça dans la chair, ça n'a pas marché. Parce qu'elles ne sont pas les seules à faire ça. Combien de gens n'ont-ils pas cru qu'avec leur argent, ils pouvaient acheter tout le monde? Mais un jour, il y a quelque chose qui n'a pas marché parce qu'il y a des gens qui ne fonctionnent pas par rapport à l'argent. Ce que nous construisons dans la chair, même si on semble avoir raison, c'est ça la grande leçon, même si on semble avoir raison, ce qu'on construit dans la chair finira mal. Si on met notre espérance dans l'argent, ça finira mal. Si on met notre espérance dans notre force personnelle, ça finira mal. Si on met notre espérance dans les diplômes, ça finira mal. Nous devons bâtir sur Dieu lui-même. Alors, quelques exemples, bien-aimés. Nous lisons dans Matthieu 16, 21-23. Parce que tout ce qui est péché direct, nous les connaissons. Nous n'allons pas insister sur ça. Nous allons insister sur les choses subtiles qu'on fait dans la chair, mais on ne se rend pas compte. Et on croit qu'on est dans le bon chemin, alors qu'on est dans l'erreur. Matthieu 16. Les gens qui crucifiaient Jésus pensaient avoir raison, hein, mais ils étaient dans l'erreur. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Jésus explique que dans la suite de temps, il va être persécuté, on va le faire souffrir et on va le crucifier. Mais pourtant, il précise quand même que le troisième jour, il ressuscitera. Mais ce schéma-là ne correspondait pas avec la logique humaine de Pierre. Parce que dans la logique humaine de Pierre, le Messie, le Sauveur, c'est un champion. On ne peut pas le frapper. On ne peut pas le vaincre. Et Pierre avait raison dans un certain sens parce qu'il il avait assisté à plusieurs tentatives de lapidation de Jésus, de lynchage de Jésus. Et ça n'avait pas marché parce que Jésus échappait à cela. Alors, Pierre a vu Jésus calmer la tempête. Il a vu Jésus marcher sur les eaux, guérir les malades, ressusciter les morts. Pierre dit, mais non, c'est impossible. Personne ne peut toucher cet homme-là. C'est le Fils de Dieu, c'est le Messie. Alors quand Jésus lui explique qu'il devra passer par les souffrances, jusque même à être mis à mort, Pierre a dit, non, c'est impossible ça, c'est impossible. Et que répond Jésus ? Arrière de moi, Satan. C'est violent. Hein? Arrière de moi, Satan. Maintenant, Jésus nous donne l'explication. Il dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mais quand Pierre ne voulait pas que Jésus meure, est-ce que c'est méchant ? C'est pas méchant. Ton ami dit qu'il va être persécuté et il va être crucifié. Il va mourir. Est-ce que c'est méchant de dire, mais non, je ne veux pas ça. Ce n'est pas méchant. Sauf que ça vient de la chair. Ce n'est pas parce que quelque chose qui ne paraît venir d'une bonne intention. C'est-à-dire que Pierre ne veut pas que son ami meure. C'est logique. Mais sauf que la mort de son ami, c'est ça qui va être le salut de l'humanité. Et Pierre n'était pas branché sur Dieu pour savoir ça et accepter ça. Il était branché sur le raisonnement humain qui considère que les souffrances et la mort sont des échecs. S'il était branché sur les pensées divines, la pensée divine, il allait savoir que la mort de Jésus était profitable, non seulement à lui, mais à toute l'humanité. Voyez combien une erreur de ce genre est traitée par le Seigneur comme venant de Satan directement. Il dit à Pierre, arrière de moi Satan. Alors que pour nous, c'est une petite erreur. C'est lié à l'amour de Pierre pour Jésus. C'est normal qu'il dise, mais Seigneur, pourquoi tu vas mourir? Mais il l'a fait dans la chair. Puisque c'est dans la chair, Jésus dit, ça vient du diable. Alors, bien-aimé, c'est un avertissement pour nous tous. Il y a des choses qu'on se dit, ah, mais c'est mon enfant, c'est mon fils, c'est ceci, c'est ma mère. C'est... Mais tout ce qui est lié à la chair, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Parce que ça mènera tôt ou tard à la destruction. Si Jésus avait cédé à ce sentiment humain pour dire à Pierre, si je meurs, ça va faire trop de mal à Pierre. Et que Jésus était resté vivant. Qu'est-ce qui allait se passer? C'est que nous, on ne serait pas sauvés. Pierre lui-même ne serait pas sauvé. Vous voyez combien les sentiments, même qui paraissent avantageux pour nous, ou qui paraissent humainement bons, peuvent conduire à des graves à dommages, parce que ça vient de la chair, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi nous devons analyser chacun de nos actes. Nous sommes témoins de la mort de Michael Jackson. Il a semé dans la magie, dans l'orgueil, dans la chair. Il a fini par... Les mêmes démons qui lui ont donné le succès ont fini par lui donner le suicide. On voit l'échec des gens publics. Devant nous, nous voyons ça. Nous sommes spectateurs de la mort de Saddam Hussein, de Kadhafi. Nous sommes spectateurs des suicides de beaucoup de chanteurs. Nous sommes spectateurs de leur esclavage par rapport à la cocaïne. Nous avons vu le monsieur qui mettait les lunettes, Jean-Luc Delarue, qui paraissait mignon comme un enfant, mais esclave de la cocaïne par son argent et par sa célébrité. On a vu comment il a fini. Il a quitté ce monde très vite. Nous sommes spectateurs des péchés, des conséquences des péchés directs. Aujourd'hui, je veux parler des choses subtiles. Comme là, avec une bonne intention, Pierre dit, bon non, Seigneur, il ne faut pas mourir. Hein? Mais non, le problème c'est que la crucifixion, la mort du Seigneur était notre salut. Et donc ce que Pierre disait gentiment était dangereux. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un te donne quelque chose gentiment ou bien te propose une affaire gentiment que c'est bien. La question qu'on doit se poser, est-ce que c'est basé sur l'esprit? Est-ce que c'est pour Dieu ou c'est pour la chair? Pour tout, on doit se poser la question. On ne doit rien négliger parce qu'on risque de subir la mort. Nous lisons un autre exemple dans Actes des Apôtres, au chapitre 16. Actes 16. Actes 16, 1 à 10. Qu'est-ce qui est écrit? Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône, là on nous parle de Paul, hein, rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Nous nous arrêtons là. La plupart des gens qui sommes là, nous qui sommes là, nous savons que Paul était hostile à la circoncision. Parce que Paul considérait que ça faisait partie de la loi, de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus amène la nouvelle alliance qui vise les choses de l'esprit et non les choses de la chair. Et que la vraie circoncision, c'était la circoncision de cœur. Mais il nous est dit au verset 3, à cause des Juifs, Paul a préféré circoncire Timothée, qui était dans ce cas, tous savaient que son père était grec. Pourquoi? Parce que Paul a préféré la construction plutôt qu'avoir raison. Paul aurait eu raison de ne pas circoncire Timothée. Mais il a fait pour permettre la construction là où il était. Du moment que ce qu'il faisait n'était pas un péché, c'était aussi inscrit quand même dans la parole de Dieu. Il l'a fait pour le bien de tous, pour le bien de Timothée et pour le bien des Juifs, afin que tous ces Juifs-là soient attentifs au vrai message que Paul apportait. Ça nous donne un exemple d'un comportement où quelqu'un accepte d'avoir tort, mais pour le bien de tous. C'est ça le comportement spirituel. Il a raison, mais il se dit, bon, ma raison ne va pas construire. Ma raison va créer la guerre. Je préfère avoir tort afin que je construise. Ça, c'est des gens spirituels qui cherchent l'intérêt de Dieu. Quel est l'intérêt de Dieu dans l'affaire? L'intérêt de Dieu, c'était que le Juif entende la parole de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'était que Timothée soit à l'aise. Paul a préféré l'intérêt de Dieu plutôt qu'avoir raison doctrinalement en disant, bon, je n'ai pas besoin de le faire. Oui, c'est pourquoi le même Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 22, « Je me suis fait tout à tous, avec les Grecs comme avec les Grecs, avec les Juifs avec, comme les Juifs, de sorte que je puisse gagner même quelques-uns. » Ça, c'est le comportement spirituel. Il ne cherchait pas à avoir raison, mais il cherchait à construire. Verset 4. « En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. » Paul, pour certains lecteurs de la Bible, vous savez que Paul a travaillé plus que tous les apôtres. D'ailleurs, une grande partie du Nouveau Testament, ce sont ses écrits à lui. Non seulement travaillé, fait aussi des miracles, plus que tous les autres. Mais, qu'est-ce qui est écrit là? Il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Alors que lui-même était apôtre, il a préféré reconnaître que le Paul, le Pierre, Jean et Jacques devaient être plus écoutés que lui-même. Parce que c'était ses anciens à lui. Mais charnellement, par la chair, il pouvait dire, mais non, mais moi je connais plus qu'eux. Parce que moi, quand j'étais pas encore chrétien, j'ai fait l'école théologique auprès d'un grand maître, Gamaliel. Ces gens-là, c'était des pêcheurs de poissons. Moi, j'étais déjà dans l'affaire. Et non seulement ça, Jésus m'est apparu après physiquement. Il m'a amené au ciel. Je suis plus qu'eux. Non. Il s'est humilié. Il a considéré pour le bien de l'Église naissante, il fallait qu'il y ait une seule source d'autorité finale. C'était les anciens apôtres Jean, Pierre et Jacques. Et lui-même, Paul, les a appelés les colonnes. Ça, c'est l'humilité. C'est un comportement spirituel. Ce n'est pas parce qu'on a fait des exploits, ce n'est pas parce qu'on a fait mieux que les aînés, on doit considérer que ce n'est plus la voix des aînés qu'il faut écouter, c'est sa voix qu'il faut écouter. Non. Un vrai de Dieu, un vrai homme spirituel, va toujours privilégier la voix des aînés. Parce que Dieu n'est pas bête pour avoir mis ses aînés avant nous. C'est parce qu'il voulait que nous, on prenne d'eux. Si Dieu pensait que les aînés devaient prendre de nous, il devait les mettre avant, nous mettre avant eux. Et Paul, malgré ses réalisations extraordinaires, plus que les autres, il s'est incliné. Quand il allait de ville en ville, il disait, je viens de Jérusalem, on a discuté avec les anciens, avec les apôtres. Ils ont pris telle décision, appliquez cette décision-là. Amen. Ça, c'est le comportement spirituel. Verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Comment le Saint-Esprit peut empêcher qu'on ne prêche la parole de Dieu? Dans notre logique, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prêcher la parole, à sauver les âmes, à guérir. Mais là, il nous est dit que le Saint-Esprit les a empêchés de prêcher la parole de Dieu. Or, dans l'activisme d'aujourd'hui, les gens te pousseront toujours à faire, à faire, à faire, à faire, à faire. Là, nous voyons quelqu'un de spirituel qui sait que Dieu peut t'amener aussi à ne pas faire. Et il a préféré écouter la voix de Dieu qui lui disait de ne pas prêcher dans l'Asie. Il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Mais je crois que si on était à l'époque, on dirait, mais Paul est passé par ici, il n'a rien fait. Il n'a pas prêché avec tout ce qu'il connaît, avec la puissance que Dieu a mise en lui. Mais oui, Paul obéissait au Saint-Esprit. L'Esprit n'a pas voulu. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup auraient interprété en disant, mais Satan veut m'empêcher. Allez, sors Satan. Mais non, ce n'est pas Satan. C'est le Saint-Esprit qui te dit non. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Même si ce qu'on fait est bien, annoncer la parole, c'est bien. Mais si Dieu dit stop, c'est son œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Et Pierre et Paul, on lui a dit stop, il a fait stop. Il est passé. Verset 17. Arrivé près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Voilà, encore une fois de plus. L'Esprit de Dieu l'empêche. Il n'a pas chassé les démons parce qu'il a compris que c'est l'Esprit de Dieu qui l'en empêchait. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent contre l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu permet une épreuve. Ah non, c'est le diable. Donc, et on arrive à traiter l'Esprit de Dieu de diable parfois sans s'en rendre compte. Or, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que les gens sont charnels. Leurs pensées ne sont pas tournées vers Dieu. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus attirés par les œuvres que le diable fait. Et ils en arrivent à confondre les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Dieu envoie une épreuve. Lui, il dit que c'est le diable. Il commence à chasser les démons. Mais Paul a su que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a empêché. Et il n'avait pas honte de ça. Il n'a rien fait puisque l'Esprit de Dieu n'a pas voulu. Verset 8. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et là, il a compris que la vision concernait le fait qu'il aille annoncer la bonne nouvelle en Macédoine. Et il est parti. Obéissance au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que Dieu m'a donné de prêcher que je suis obligé d'aller prêcher partout. Une invitation, vous savez, beaucoup de serviteurs sont tombés comme ça. Invitation dans telle église, il va. Dans telle autre église, il va. Mais là-bas, toutes les églises ne sont pas de Dieu. Il y a des gens camouflés, des faux prophètes, en peau de brebis, mais c'est des loups. Et tu te dis, mais c'est mon temps. On t'invite par-ci, tu pars. On t'invite là-bas, tu pars. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et quand ce n'est pas la volonté de Dieu, Dieu n'est pas là non plus pour t'avertir, pour t'avertir des dangers sur place, parce que tu es parti sans la volonté de Dieu. Tu es parti par la chair. Et tu vas te faire piéger. Et on s'étonne, on a appris qu'un tel pasteur a été empoisonné. Et il meurt, alors que la Bible dit que nous prendrons des poisons, nous ne mourrons pas. Mais comment on entend aujourd'hui des pasteurs qui ont été empoisonnés lors d'un repas? En général, ce n'était pas des repas de Dieu. Ils ont voulu honorer le ventre. Et ils ont été empoisonnés. Parce que le Seigneur nous dit que vous prendrez des breuvages mortels, rien ne vous arrivera. Donc il y a des gens qui pensent qu'on leur a dit par des enseignements, dans des enseignements, oh petit, maintenant c'est ton temps. Ou par une prophétie, c'est ton temps. C'est son temps, maintenant il commence à aller à gauche, à droite, sans demander au Seigneur. Et un jour, tu vas tomber dans l'antre du diable, croyant que tu es chez Dieu. Nous connaissons l'histoire du jeune prophète, non? À qui Dieu avait dit, tu ne vas pas manger chez quelqu'un tu rentres de ta, après ta mission, tu rentres par un autre chemin. Mais un vieux prophète est venu lui dire, un ange m'est apparu et m'a dit que tu viennes manger chez moi. Le jeune prophète, au lieu de demeurer sur l'instruction de Dieu qui lui a dit directement en face, il a préféré se laisser impressionner par la vision d'un ange conté, raconté par ce vieux prophète. C'est ainsi qu'il s'est fait manger par quoi ? Par un lion, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Le lion, non, il ne s'est pas fait manger, il s'est fait tuer par un lion. Et pour prouver que c'était une sanction, le lion ne l'a pas mangé, il a juste tué. Parce que cet homme n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit. C'est ainsi que beaucoup meurent spirituellement. Beaucoup meurent dans leur marche chrétienne parce qu'ils n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit. Ils écoutent leur raisonnement, ils écoutent la logique qui élève l'homme. C'est ce qu'on va décrire, la logique de la chair. Mais Paul écoutait le Saint-Esprit. Nous arrivons toujours avec Paul au verset 20, au chapitre 21 des Actes des Apôtres. Chapitre 21. Verset 7. Achevant notre navigation, nous allâmes de Tyr à Ptolémaïs. Nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logeâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Amen. Prophétie pure venant de Dieu. À Paul, si tu vas à Jérusalem, tu vas être arrêté et livré aux Romains. Quelle est la réaction charnelle de tout le monde qui était tout autour ? Paul, ne t'en va pas s'il te plaît, parce que Agabus, c'est un vrai homme de Dieu. S'il dit ça, c'est la vérité. Et Paul est conscient aussi que c'est la vérité, parce qu'Agabus, ce n'était pas la première personne qui lui prophétise cela. Mais qu'est-ce que Paul dit ? J'irai parce que c'est la volonté de Dieu. Je crois que beaucoup de chrétiens à la place de Paul, sachant que c'est la prophétie qui vient de Dieu, allaient dire, le Seigneur a parlé, on va m'arrêter là-bas, je n'y vais pas. Et fouillard. Mais Paul a dit, c'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Dieu me dit ce qui m'arrivera, mais il ne me dit pas de ne pas partir. C'est ça la conduite du Saint-Esprit. Ne pas faire dire à Dieu ce que lui n'a pas dit. Dieu dit une partie, toi tu rajoutes l'autre. Non, là Dieu est juste en train d'informer qu'on va t'arrêter. Il ne t'a pas dit qu'il ne faut plus aller après. Paul a dit, il a juste dit qu'on va m'arrêter, il n'a pas dit que je n'y aille pas. Donc j'y vais. Je suis prêt à mourir pour mon Seigneur. J'aime Paul à cause de ces phrases-là. Je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Amen. Alors, rapidement, nous allons donner des détails qui peuvent nous aider à différencier l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'esprit. Premièrement, l'élément le plus important, c'est Romains 12. Dans Romains 12, il nous est dit « Offrez vos corps en sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu. C'est ça qui sera pour vous un culte raisonnable. » Premièrement, nous devons retenir une chose. Ce qui est important pour Dieu, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas ce que nous faisons. L'erreur qu'on commet souvent, c'est de vouloir faire des choses pour plaire à Dieu. Mais ce qui est important, c'est que notre vie soit sous son contrôle. Ça, c'est le plus important pour Dieu. Est-ce que on peut se souvenir comment on a été sauvé? Lorsque Jésus-Christ a marché sur les eaux, comment on a été sauvé? Lorsque Jésus-Christ a guéri les aveugles, comment on a été sauvé? Lorsque Jésus-Christ prêchait avec autorité? Non. On a été sauvé au moment où Jésus-Christ a été cloué à la croix. C'est là qu'il a crié, tout est accompli. La vie de Jésus a produit plus que ses œuvres. Parce que les œuvres de Jésus n'ont pas produit le salut. C'est sa vie qui a produit le salut. Ça, c'est la règle principale à retenir. Sachez que votre vie est plus importante que vos œuvres. Satan va vous conduire à faire beaucoup d'œuvres pour croire que c'est ainsi que vous faites beaucoup de choses bonnes. Mais Dieu vous dira, laisse-toi soumis à ma volonté entre mes mains. C'est ça qui compte pour Dieu. C'est ça qui va produire beaucoup de fruits. Mais le problème, vous savez, Jésus, quand il a été crucifié, il nous a vus en esprit, mais il ne nous avait pas vus physiquement. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce sont des fruits. Quand Paul écrivait ses lettres, est-ce que Paul savait que nous, on allait lire ça? Non. Mais puisque Paul, vous savez qu'il n'y a pas que Paul qui a écrit, beaucoup de gens ont écrit. Il n'y a pas que Paul qui a prêché, beaucoup de gens ont prêché. Mais il n'y a que l'œuvre des gens dont la vie a été offerte en sacrifice à Dieu. Ce sont ces œuvres-là qui ont continué. Beaucoup de gens ont prêché, hein? Il n'y a pas que Paul. Il n'y a pas que Pierre qui a prêché. Il n'y a pas que Jean qui a prêché. Beaucoup. Mais il n'y a que l'œuvre des gens dont la vie elle-même a été un sacrifice pour Dieu qui a produit un fruit. La logique humaine charnelle nous fait croire que c'est plus tu fais des choses, c'est ça qui est important. Mais non, la Bible nous dit que tu peux faire des choses, mais tu construis sur le sable. Il faut construire en esprit. Il faut comprendre que c'est notre vie que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas ta prédication parce que c'est lui qui inspire la prédication. Dieu ne cherche pas tes miracles parce que c'est lui qui fait les miracles à travers toi. Dieu ne cherche pas ça. Dieu cherche ta vie, que ta vie lui appartienne. Ça, c'est la première leçon. Nous continuons. Parlons des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se soumettent à l'intelligence humaine. C'est comme ça qu'on va reconnaître les œuvres de la chair. Quand pour faire quelque chose, tu commences à poser des conditions humaines, sache que tu es dans l'œuvre de la chair. Tu reçois qu'il faut aller à Aubervilliers. Et ta réaction, c'est « je n'ai pas de voiture ». Ta réaction, c'est « je n'ai pas d'argent pour le train ». Ta réaction est charnelle parce que ta réaction est basée sur un raisonnement lié aux limitations humaines. C'est une réaction charnelle. Quand Paul, on lui a dit qu'on va l'arrêter à Jérusalem, il est parti parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question de est-ce que je peux ou pas. C'est que veut le Seigneur. Si tu dis que tu reçois par Dieu que tu dois aller à Aubervilliers, ben, la suite c'est quoi? Seigneur, envoie les moyens pour que j'y aille. Mais quand tu commences à dire, mais je n'ai pas d'argent, mais je n'ai pas ceci, mais il n'y a personne pour m'y conduire. Réaction charnelle. Les choses de la chair se soumettent à l'intelligence humaine. Quand tu commences à être soumis à l'intelligence humaine, aux traditions, oui, mais ça ne se fait pas comme ça chez nous. Chose de la chair. Ça ne se fait pas comme ça. Moi, depuis que je suis petit, je n'ai jamais vu ça. La chair. L'esprit est libre de faire ce qu'il veut. Tant que ce n'est pas quelque chose qui contredit la parole de Dieu, il faut suivre le Saint-Esprit. Vous savez, si Jésus devait suivre les gens, il n'allait pas... Le jour du sabbat, les gens, ses disciples ont cueilli les épis. Les Juifs étaient scandalisés. Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Donc si vous n'avez pas compris ça, c'est un problème. C'est moi le chef du sabbat, donc je fais du sabbat ce que je veux. Voilà, comme toute réponse Jésus a donnée. À un moment, il guérit le jour du sabbat. Les gens vont polémiquer, ils disent, mais mon père travaille. Vous croyez qu'il y a le péché, Dieu est toujours dans le repos. Il travaille puisqu'il y a le péché qui est entré dans le monde. Il était dans le repos quand tout était bon. Maintenant qu'il y a le péché, il y a la difficulté, il y a les souffrances, Dieu travaille, moi aussi je travaille. Voilà. Mais les disciples, eux, au lieu de se plaindre comme les Juifs, ils écoutaient plutôt, ils étaient humbles, l'œuvre de l'Esprit. Bref, l'œuvre de la chair se soumettra à l'intelligence humaine. Ça se soumettra aux traditions. On reconnaît l'œuvre de la chair. Comment on reconnaît les œuvres de la chair? Ça élève l'homme. Quand vous avez un serviteur de Dieu ou un chrétien qui tout le temps vous élève, c'est les œuvres de la chair. Dieu dit dans Ésaïe 42, 8, « Je ne donnerai ma gloire à personne. » À personne. Quand vous entendez que des prophéties qui vous disent « Mais toi, tu vas prêcher dans le monde entier. Tu es une lumière. » Frère, Dieu t'a oint depuis ta naissance. Mais bien-aimé, bon. Quand tu entends tout le temps des trucs comme ça, tu es dans la chair, bien-aimé. Lisez les évangiles. Lisez l'Ancien Testament. Vous ne verrez pas de prophéties qui élèvent un homme. Au contraire, quand Jésus prophétise sur Pierre, il dit, quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te mettra la ceinture. Il t'amènera où tu ne voudras pas. Ce n'est que des difficultés qui sont pour prophétiser. Quand le Seigneur parle à Paul, il dit à Ananias, va lui dire qu'il va souffrir pour mon nom. Il va prêcher au roi et il va souffrir pour mon nom. Il ne dit pas que Paul est élevé. Non, il va souffrir pour mon nom en prêchant au roi, aux païens, à tout le monde. Les prophéties qui élèvent les humains, ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne donnera sa gloire à personne. Même si Dieu doit nous parler de notre appel, ça ne sera pas sous des termes qui nous élèvent. Ça sera juste pour nous parler, pas pour donner l'impression que nous sommes glorieux, nous sommes puissants, ainsi de suite. Non. Même quand Dieu envoie Moïse, il ne lui dit pas, Moïse, tu es grand. Il lui dit tout simplement, je serai avec toi. Et quand Dieu veut t'encourager alors que tu te sens faible, là, il va te dire, sois fort, fortifie-toi. Pour moi, tu es fort. Là, c'est pour t'encourager. Ce n'est pas pour t'élever. Comme il a dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors Gédéon dit, mais non, moi je suis faible. Voilà, là il veut t'encourager parce que tu te considères comme faible. Mais élever un homme, dire, mais tu seras riche, tu auras beaucoup de maisons. Là, ça, ce n'est pas Dieu. De telles prophéties sont là pour distraire, pour amener les gens dans l'orgueil. Et vous allez voir quelqu'un qui va de groupe chrétien à groupe chrétien, et à chaque fois que les prophéties ne se réalisent pas, il croit que le groupe est mauvais, il change. Parce qu'il a cru en une fausse prophétie. Et comme Dieu ne réalise pas les fausses prophéties, donc la personne va toujours chercher l'endroit où Dieu va réaliser, ben il va tourner toute sa vie. C'est pourquoi il y a des gens qui ont traîné avec des prophéties pendant 50 ans. Et ils sont morts, ils n'ont même pas vu 1% de la prophétie. Parce que ce n'était pas la prophétie de Dieu, c'était ça élevait un homme. Dieu n'élève pas les humains. Dieu les instruit, il les conduit. Tout ce qui élève un homme, c'est charnel. Il y a des gens qui, après avoir prêché, viennent demander, mais est-ce que j'ai bien prêché charnel? Dieu n'a pas besoin qu'on prêche bien. Il a besoin qu'on parle, qu'on dise ce qu'il nous a demandé de dire. Même si c'est considéré comme une prédication qui a échoué, le plus important, c'est qu'on obéisse, qu'on dise ce qu'il nous a demandé de dire. Est-ce que j'ai bien chanté? Charnel. Tout ce qui veut mettre l'homme au centre, c'est charnel. Voilà. C'est charnel. Ça peut être innocent, mais tout en étant charnel. C'est-à-dire que la personne n'a pas imaginé être Michael Jackson, mais c'est quand même charnel. C'est quand même charnel, parce qu'il faut élever seul Dieu. L'homme n'est qu'un instrument inutile. C'est Dieu qui se sert de nous. C'est tout. Troisième point des œuvres de la chair, ça tire la force de la loi des œuvres. Nous lisons dans Colossiens 2, 18. Il y a des gens, ils se considèrent bien seulement quand ils ont souffert. Tant qu'ils n'ont pas souffert pour Dieu, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien fait pour Dieu. œuvre de la chair. C'est les œuvres. Il veut faire pour sentir. Moi, j'étais dans un groupe chrétien. Quand tu grossis, tu es mal vu. Donc, c'est que tu ne jeûnes pas. Mais qui a dit que c'était le jeûne qui était notre salut? Notre salut, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas le jeûne. Après, nous jeûnons et prions pour certaines raisons, mais notre salut se trouve en Jésus-Christ. Il est écrit dans Colossiens 2, verset 18. « Que personne sous une apparence d'humilité, hein, ça donne une apparence d'humilité, et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions. Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Il ne s'attache pas au chef dont tout le corps assisté est solidement assemblé par les jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. » Donc la personne ne s'attache pas à Jésus, mais s'attache à ce qu'il fait. Verset 20, « Si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, en vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Ne touche pas ceci, ne touche pas cela. On est d'accord, on est conscient que la télévision peut nous amener à faire des péchés. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a regardé la télé qu'il a péché. Il y a des gens... Moi, je connais quelqu'un qui a, à plusieurs reprises, cassé sa télé pour en racheter une autre. Oh, je vais être pur. Il enlève la télé de la maison, il casse les antennes. 3 mois après, on apprend qu'il a acheté la nouvelle télé, une nouvelle télé. Ça, c'est les œuvres de la chair. C'est tout. Et puis un jour, on va le voir faire une émission à la télé. Oh, mais on ne comprend pas. Cette émission-là va passer par où ? Par le lavabo ou bien par la télé ? Toi, tu es contre la télé, mais tu vas faire une émission à la télé. Soyons clairs, la télé a des dangers, mais ce n'est pas la télé qui est le danger. Mais il y a des dangers dedans. On est d'accord. Mais la chair, ne touche pas. C'est ça. Non, nous, notre force se trouve dans le Seigneur. Comme c'est écrit, il ne s'attache pas au chef. Si tu es attaché au chef, il te conduira à moins regarder la télé. D'accord. Mais il ne faut pas après faire de nouvelles lois parce qu'on veut se sentir vrai chrétien. Quand quelqu'un mange, c'est un problème. Frère, tout le temps, moi je jeûne, tout le temps. Oh, mais bon. Donc Dieu, il ne fallait pas créer le ventre dans ce cas-là. Et ça, c'est la chair. D'ailleurs, Jésus dit quand on jeûne, on doit rester humble, ne pas montrer ça. Voilà. Tu vois la personne tout le temps triste. Frère, je suis sur la montagne, comme on dit. Toi, tu es devant moi, tu dis que tu es sur la montagne. Non. Non. Il faut, quand on est dans ces choses-là, on doit être discret. Jésus a dit, il faut te parfumer, être brillant. Mais bon, voilà la personne. Changer la façon de marcher, changer la façon de parler. C'est la chair. C'est la loi, c'est les œuvres. C'est les œuvres. Il y a des gens qui vont faire des débats infinis sur les tenues vestimentaires. On est d'accord qu'il y a de mauvaises tenues vestimentaires. Mais je ne veux pas passer tout mon temps à débattre sur la tenue vestimentaire. Parce que ce n'est pas ça qui sauve. Il y a des gens habillés correctement. Donc, dans ce cas, on va dire que les gens qui mettent la capsule des prisonniers, là, les femmes en Afghanistan, donc sont les plus proches de Dieu. Parce que tout est caché, même les yeux. Non. Donc, ce n'est pas ça qui sauve. On reconnaît qu'il y a des mauvaises tenues. On va en parler. Mais passer tout notre temps sur ça, c'est comme si le salut viendrait de ces œuvres-là. Non, ça ne vient pas de la loi. Le salut, nous l'obtenons par grâce. C'est un cadeau de Dieu. Mais maintenant, quand tu as le salut, tu as maintenant la nature de Dieu en même temps et tu fuis le mal, tu fuis le péché. Personne même te dira. C'est toi-même qui sens que non, ce que je veux porter va être une occasion de chute pour les autres. Je ne porte pas ça parce que j'aime les autres. C'est ça, bien-aimé. Ça tire sa force, ça insiste sur les apparences. Les œuvres de la chair insistent sur les apparences. Souvent, les gens me demandent, quand je viens d'une mission, d'une visite, la première question, les gens me demandaient, les gens étaient nombreux, ça me fatigue toujours dans mon cœur. Je dis, mais non, vous savez, le foin, c'est grande quantité. Le bois, vous allez le trouver en grande quantité. Hier, j'étais même chez des bien-aimés qui ont abattu un arbre. Ils ne savaient pas que faire du bois. Ils ont donné ça aux gens. Le bois, vous allez trouver ça en grande quantité. Le foin, en grande quantité. Mais mettez le feu, ça brûle. Mais l'or, c'est toujours en petite quantité. Le diamant. Parce que même si on fait un examen là, personne n'a du diamant peut-être. Peut-être deux personnes au maximum. Mais ce sont les meilleurs matériaux. Dieu, c'est la qualité. La question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu était avec vous là-bas? Pas vous étiez combien? Parce que sinon, ça voudrait dire que les gens qui ont regardé France-Arménie ou je ne sais pas quoi, France-Espagne peut-être. Le dernier match qui était au Stade de France, c'était à guichet fermé là. France-Portugal. Donc ces gens-là sont les plus proches de Dieu parce qu'ils étaient nombreux. Hein. C'était à guichet fermé. Non. Ce qui est important, c'est la communion avec le Seigneur. Est-ce qu'on était en communion vraiment avec le Seigneur? Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. La chair insiste sur les apparences. Ah, il y a eu des miracles. Mais oui, mais qu'est-ce qui a été prêché? Oh, je ne me souviens pas. Donc toi, tu as vu seulement que les miracles. Tu ne te souviens pas de ce qui a été dit. Ah, mais il parlait bien, hein? Mais il a dit quoi? Ah, mais c'est la chair. Insiste que sur les apparences. Moi, j'ai vu dans des églises. Mes frères, vous n'avez pas la vie. Tapez les mains. Oh. Donc, quand on tape les mains, c'est là qu'on a la vie. Donc, les gens qui vont Johnny Hallyday taper les mains là-bas, ils ont plus la vie alors. Faire là-bas, on dirait dans ce coin là-bas, les gens n'aiment pas Dieu. Hein. Ils acclament pas. Oh non. On ne peut pas forcer les gens à acclamer. On ne peut pas forcer les gens à chanter. On ne peut pas. Si on est conscient que l'Esprit de Dieu est là, qu'il fasse son boulot. Moi, je dis toujours à Dieu, ce n'est pas mon église. Ce ne sont pas mes gens. Si toi, tu ne les touches pas, c'est ton problème. Moi, je fais mon boulot. Fais ton boulot. Vous l'avez dit, mais le coin là-bas, ça n'acclame pas. Le diable là-bas, non. Pourquoi? Non. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais dans votre église, quand on prêche, les gens ne disent pas amen. Il y a la mort. Hein? Moi, je dis, mais non. Il y a des gens, pendant que tu prêches, qui peuvent avoir l'impression qu'ils sont... Toi, tu es devant, tu as l'impression qu'il est fâché. Il y a des gens, pendant que tu prêches, tu as l'impression qu'il avale la parole. Mais 6 mois plus tard, celui qui semblait dire amen, machin, truc, tu le retrouves dans une boîte de nuit. Celui qui semblait en colère, tu le retrouves au service du Seigneur, en train de servir Dieu. Non, ce n'est pas l'apparence avec Dieu. Dieu regarde au cœur. La chair insiste sur les apparences. Bien-aimés, nous, on attend de voir les fruits. On ne se fait pas voir par l'apparence, parce que c'est la chair. La chair ne connaît pas l'indulgence. C'est-à-dire, quand quelqu'un a tort, il faut le bastonner. C'est ça, c'est la chair.
Mais l'esprit connaît l'indulgence. L'esprit connaît le pardon. L'esprit peut se mettre en arrière. Jésus a dit, quand on te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 kilomètres. Mais la chair dira, mais ça fait, je devais faire 1 kilomètre, ça y est. Là, il me demande de rajouter, il veut me marcher sur les pieds. Le Saint-Esprit te dira, fais-en encore un autre. C'est comme ça que tu montreras ta supériorité par rapport à l'autre. C'est que toi, tu peux par amour faire des choses. C'est cela, bien-aimé. La chair ne connaît pas l'indulgence. Quand quelqu'un a fauté, il faut vraiment le massacrer. Ça, c'est la chair. Pas de pardon. Pas de pitié. Un autre point, c'est que la chair s'intéresse, on l'a dit rapidement, à la quantité et au nombre. Non, Dieu ne s'intéresse pas à tout ça. Le grand ministère, ce n'est pas le ministère qui conduit beaucoup de gens. Jésus lui-même, il dit dans Jean au chapitre 2 que beaucoup de gens le suivaient, mais ils savaient que leur cœur n'était pas pour lui. Voilà quelqu'un qui marchait par l'esprit. Même si la quantité suivait, il savait que c'était les apparences. Ce n'était pas la vérité. Mais nous, on se laisse avoir par la quantité, par ce qui marche. Ce qui marche n'est pas forcément ce qui est de Dieu. La chair cherche la reconnaissance. Après tout ce que avec tout ce que j'ai fait pour lui, vraiment, ça c'est la chair. On veut qu'on nous dise merci. Oh, il ne m'a pas dit merci, mais oui alors. Toi, tu l'as fait pour qu'on te dise merci? Non. C'est vrai qu'on peut apprendre nos enfants à savoir dire merci, mais pas forcément avec les autres, vouloir à tout prix que quand on fait une bonne action, les gens nous disent merci. Non. Nous, on a fait pour aider. On a fait par amour, pas pour qu'on nous dise merci. Sinon, on aura des conflits avec beaucoup de personnes, tout le temps. Ah, mais il ne m'a pas dit merci, il n'a pas dit merci. Il n'est pas poli, mais non. J'ai fait mon acte d'amour, un point, c'est tout. Je ne cherche pas de reconnaissance, je ne cherche pas de merci, je ne cherche pas de récompense, parce que je l'ai fait par amour. Ça, c'est l'esprit. La chair compte sur les efforts humains. Il y a des gens, ils ne prient pas parce qu'ils se sentent faibles. Ils ne vont pas faire telle chose pour Dieu parce qu'ils sont malades. Mais celui qui est en esprit, c'est que celui qui est en lui est plus fort. Au lieu de prendre une décision par rapport à ce qu'il sent dans sa chair, il prend une décision par rapport à l'inspiration divine. Amen. Il y a plein de choses à dire. Nous passons par les choses de l'esprit, aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit glorifient toujours Dieu. C'est Dieu qui est mis au-dessus de tout. Ça, c'est l'esprit. Glorifie toujours Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il me glorifiera. Ça ne glorifie pas un homme. Récemment, au Congo, on a voulu me souiller les chaussures. Donc déjà, avant que je prêche, le modérateur disait, préparez déjà vos foulards. Quand l'homme de Dieu va monter, donc vous entrez en action. Alors, je me suis dit, je vais en profiter pour qu'on... Mes chaussures étaient un peu sales, comme ça on va les essuyer. Non, ça c'est pour blaguer, bien-aimé. Dès qu'il y a un qui a voulu s'approcher, là j'ai dit, calme. On ne peut essuyer que les chaussures de qui? Ah oui, est-ce que moi je suis mort pour quelqu'un à la croix? Non, je ne suis qu'un instrument inutile. Bien-aimé, le pasteur m'a dit à la fin, personne n'a dit amen quand tu prêchais. C'était fou à l'église aujourd'hui. Ben voilà. Et il leur a dit aussi, aujourd'hui vous êtes calme. Hein? Jésus seul doit être élevé. Les gens aiment la pagaille, l'ambiance. Il essuie les chaussures, après il va pêcher tranquillement. J'ai essuyé les chaussures. Non. Nous, on va te mettre devant tes responsabilités. Ce n'est pas moi qu'il faut regarder. La parole là que je prêche, c'est ça qu'il faut suivre. C'est ça qu'il faut suivre, parce que tu ne seras pas jugé par moi. Tu seras jugé par l'auteur de la parole. Les choses de l'esprit glorifient toujours Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les autorités comme si elles étaient du papier. Ça ne veut pas dire ça. La Bible dit qu'on doit obéir aux autorités. Mais on ne doit pas leur donner la place de Dieu. Voilà. Les choses de Dieu amènent à connaître Dieu. Les choses de l'esprit, ça va te pousser à connaître Dieu en profondeur, à rechercher toujours la volonté de Dieu. Ça va te pousser à faire toujours l'objectif de Dieu. Vous savez, l'objectif de Dieu, ce n'est pas toujours ce que nous pensons. Combien de fois nous avons prié, Seigneur, envoie les miracles pour que les gens voient que tu es Dieu. Mais dernièrement, nous avons écouté une prédication qui nous disait que Jésus est venu dans la simplicité afin que le cœur soit dévoilé. Parce que si on vient que dans la puissance, les gens vont faire l'hypocrite pour recevoir la puissance de Dieu, mais en étant hypocrite et en faire ce qu'ils veulent. Alors Dieu permet qu'on ait des temps difficiles et des temps de puissance. Comme ça, dans les temps de puissance, quand les gens viennent en grand nombre, dans les temps difficiles, Dieu fait le tri. Ceux qui étaient venus que pour la puissance, dans les temps difficiles, ils vont s'en aller. Dieu fait le tri ainsi. Donc, parfois, nous pensons que là, Dieu doit faire le miracle, alors que c'est le contraire, il ne doit pas en faire. Donc, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé. Les choses de l'Esprit, point 3, sont inspirées par l'amour. 1 Corinthiens 13 est tout un chapitre sur l'amour qui nous dit que nous devons tout faire par amour. Même si je me fais couper la tête pour les autres, si je ne le fais pas par amour, ça ne sert à rien. Parce qu'on peut aussi se faire couper la tête pour aller retrouver 70 vierges au paradis, comme dit une religion. Ben, tu n'es rien du tout. Mais si on te coupe la tête parce que tu devais apporter l'évangile à quelqu'un, Ça te prépare à une grande gloire au ciel. Tout est inspiré par amour. C'est pourquoi quelqu'un qui est dans l'esprit sera comme de l'eau, quoi. Quelque chose de limpide, quelque chose qui ne choque pas, mais quelque chose qui porte tout le monde, qui aime tout le monde. Les choses de l'esprit sont liées à la mort. Que dit l'apôtre Paul dans Galates 2:20? Galates 2:20. J'ai parlé de l'amour, maintenant c'est la mort. Si on ne meurt pas soi-même, on ne peut pas vivre les choses de l'esprit. Que dit Paul? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Entre parenthèses, frères, vous vous souvenez du combat entre Élie et les prophètes de Baal? Quand est-ce que le feu est descendu du ciel? C'est quand il y a eu le sacrifice de l'animal. Quand Dieu conduisait le peuple d'Israël avec la colonne de nuée, la nuée, la journée, et la colonne de feu la nuit, c'était quand? C'était après que l'agneau a été sacrifié. Dieu envoie la puissance du Saint-Esprit que lorsqu'il y a un sacrifice. Et vous savez, quand est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? C'est quand Jésus a été crucifié à la croix. C'est là qu'il a reçu de Dieu l'autorisation de donner le Saint-Esprit à l'humanité. Il fallait qu'il y ait son sacrifice. De la même manière qu'Élie, il fallait qu'il y ait le sacrifice pour que le feu tombe. La même chose, pour que le Saint-Esprit vienne, il fallait qu'il y ait le sacrifice du Seigneur. Alors comprenons que si nous voulons expérimenter la conduite par le Saint-Esprit, vivre les choses de l'Esprit, ça va souvent nous amener à la mort, à soi-même. Quelque chose qui nous amène à l'exaltation de soi-même, à la force de soi-même, ce n'est pas de l'Esprit. Les choses de l'Esprit, souvent, ça va nous amener à la mort à soi-même, afin que la vie de Dieu se manifeste. C'est ce que notre frère Paul nous dit. Certaines persécutions sont de bonnes choses parce que ça vient de l'Esprit, parce que ça a comme objectif sortir la vie de Dieu de nous. Briser ce qui est notre honneur, notre orgueil. Il y a Richard Rembrandt qui disait, à chaque fois que je suis critiqué, je suis content parce que ça me permet de réaliser que les exploits que je fais, ce n'est pas moi qui les fais, c'est Dieu qui les fait. Donc moi, je suis critiqué, mais les exploits de Dieu demeurent. Les choses de l'esprit, quand quelqu'un est dans l'esprit, il s'attend à la prière. Sa force, c'est la prière. Ce n'est pas ce qu'il fait, c'est la prière. Il prie beaucoup plus qu'il ne fait. Parce qu'il sait qu'en priant, c'est Dieu qui va agir. C'est simple. Le Saint-Esprit peut tout faire. Alors que faire ? Prier souvent pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Comme ça, il fait tout à notre place. C'est tout. Vous savez, si le courant se coupait ici, je vais parler plus fort, hein, pour que vous m'entendiez. Alors, pour que je parle moins fort pour conserver ma voix, vaut mieux qu'il y ait le courant. Et c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Donc, vaut mieux prier. Ainsi, lui, il fait beaucoup, nous, on fait un tout petit peu. Mais quand on ne prie pas, on fait, on va faire, on va faire, on va faire, on va s'épuiser. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que l'œuvre à laquelle Dieu nous appelle nous dépasse en tant qu'humains. Seul l'Esprit peut l'accomplir. Donc nous avons besoin de recourir à la prière. Résoudre tout par la prière et attendre le feu vert de Dieu pour agir. Penser que nos actions vont résoudre les choses, c'est une grave erreur. C'est la prière qui résout. L'Esprit va nous faire considérer les autres avec humilité. Comme c'est écrit dans Philippiens 2, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. On ne sera pas prompt à parler, mais prompt à écouter, lent à parler. Quand on va arriver dans un endroit, on va se mettre à la dernière place. On ne va pas chercher à se montrer, mais on se met à la dernière place. Et c'est l'Esprit qui va nous faire montrer, s'il le veut aussi. Celui qui est dans l'Esprit s'intéresse à la qualité, on l'a dit tout à l'heure, pas à la quantité. Celui qui est dans la marche par l'Esprit, dans les œuvres de l'Esprit, il est dans la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas attirer la puissance de Dieu. Il croit et il s'attend à l'action de Dieu. La foi est capitale si on veut produire les œuvres de l'Esprit. Les œuvres de la chair s'opposent à la foi. Parce que ça nous pousse à croire en nous-mêmes. Alors que les œuvres de l'Esprit nous poussent à croire en Dieu pour que Dieu agisse et touche, transforme. Et tout ce qui est de l'Esprit vient de la plénitude du Saint-Esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on commence à trop forcer, il y a un problème. Prions, demandons la puissance de Dieu, demandons l'aide de Dieu. Parce que pour produire les choses de l'Esprit, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Le frère Paul nous dit dans Éphésiens 5, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Nous devons rechercher la plénitude du Saint-Esprit à travers la prière, à travers l'obéissance à la parole de Dieu, à travers l'amour pour les choses de Dieu, la soif pour les choses de Dieu. Et en conclusion, nous voulons dire dans 1 Corinthiens 3, 11 à 13, 1 Corinthiens 3, 11 à 13. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors Dieu nous avertit aujourd'hui qu'il y aura un jugement, un examen de toutes nos œuvres sur terre. Les œuvres qui sont bâties en pierres précieuses, les œuvres de l'Esprit. Les œuvres qui sont bâties en or et en argent, qui concernent Dieu et son Fils. Mais ces œuvres-là, malgré le feu, elles subsisteront. Le diamant ni l'or ne sont pas éliminés par le feu, ni l'argent. Mais les œuvres bâties en chaume, grosse quantité, en foin, grande quantité, on en dit. Vous savez, il y a parfois des quantités de foin, tu ne vois pas derrière. Hein? Donc c'est tellement grand que bon, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière là-bas. Il n'y a pas de problème. Sur la terre, tu nous impressionnes, monsieur foin. Sur la terre, tu nous impressionnes, monsieur le chaume ou le bois. Mais quand le feu de Dieu viendra un jour, ça va disparaître. Mais les œuvres en argent, en diamant, en or, qui sont petites, demeureront. Parce que c'est de la qualité, c'est les œuvres de l'Esprit. Il faut choisir, bien-aimé, le succès d'aujourd'hui ou la gloire à venir. Il faut choisir. Moi, j'ai choisi la gloire à venir. Voilà, bien-aimé, s'il faut passer par l'insuccès aujourd'hui, le non-succès aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que tout va s'arrêter un jour. Il y a des gens qui nous ont précédés, les Staline, les Hitler, qui étaient glorieux, aujourd'hui ils ne sont plus rien. Un jour il y aura un jugement qui déclarera l'œuvre de chacune telle qu'elle est. Diamant, or, argent ou bois, chaume, foin. Le feu fera la différence. Toutes ces œuvres-là passeront par le feu et on verra l'œuvre qui restera. Alors je nous conseille de choisir l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de l'Esprit. Dans toutes choses, que nos intentions soient les intentions de Dieu. Dans toutes choses, Romains 12, 1 à 2, que nos vies soient offertes en sacrifice. Cherchons l'intérêt des autres, l'intérêt de Dieu. S'il faut que nos vies soient perdues aux yeux du monde et à nos propres yeux, acceptons ça, parce qu'ainsi nous produirons les œuvres de l'Esprit et les fruits demeureront éternellement. Voilà ce que Dieu nous conseille. N'aimons pas le succès. C'est écrit dans Romains 12, soyez attirés par ce qui est humble. Et Dieu s'occupera. Dieu nous garantit dans Josué 1, 8, que si nous accomplissons les œuvres de l'Esprit, on aura du succès. Mais ce n'est pas le succès selon le monde, c'est le succès selon Dieu. On produira des œuvres belles qui durent éternellement. Préférons cela. Et ça nous fera passer par le sacrifice de nous-mêmes. N'oublions pas ce que j'ai dit au milieu. Ce qui est important pour Dieu, c'est notre vie. Ce n'est pas les œuvres que nous faisons, c'est notre vie qui est importante. Si nous offrons nos vies au Seigneur, c'est ce qu'il cherche. Il va en faire quelque chose d'extraordinaire, comme la vie du Seigneur offerte a produit les âmes que nous sommes. Dieu va faire de même pour nous. Amen. Prions le Seigneur.